Bon matin à chacun d'entre vous, ça va bien? Bonne presque midi, mais c'est correct. Je suis content d'être avec vous ce matin. J'aimerais ça qu'on commence avec une petite réflexion ce matin. Est-ce que ça serait pas bien, est-ce que ça serait pas le fun d'avoir un mode d'emploi, un manuel qui nous dit comment réagir et comment vivre chaque petite situation de notre vie? Comment réagir? Comment réagir aux circonstances de la vie qui sont parfois joyeuses, mais qui peuvent être souvent aussi éprouvantes? Et souvent, ces situations-là nous frappent sans nous avertir. Comment réagir? Quoi faire? Comment ne pas succomber au découragement? Comment ne pas abandonner? Comment ne pas tomber? Si seulement il y avait un manuel qui pouvait me dire exactement comment réagir quand que ces situations-là surviennent. Ça me semble qu'on se sent tous comme ça parfois. Eh bien, c'est certain que ce matin, on va regarder dans la Bible un livre qui parle assez bien des expériences de vie, qui parle assez bien des expériences de vie éprouvantes des gens, tout comme nous aujourd'hui. On peut constater que la vie est éprouvante, par exemple, la maladie qui nous frappe, les difficultés de couple, les injustices qu'on peut vivre, tous les différents conflits, les luttes avec le péché, les abandons, les souffrances. Et le livre des psaumes est un recueil incroyable de l'expérience humaine, avec la particularité que ceux qui écrivent ces expériences-là démontrent une confiance inestimable envers Dieu. Et ça, peu importe ce qu'ils vivent. Le livre des psaumes, c'était un livre qu'on avait, un recueil de louanges que les Israélites ont mis ensemble pour chanter à propos de tout ce que Dieu a fait. Il y a plusieurs types de psaumes. Il y a les psaumes des lamentations, qui sont des expressions de souffrance, des difficultés, de déception, tout en exprimant la confiance en Dieu. Des psaumes d'action de grâce, expression de joie au Seigneur parce que quelque chose a bien été. Que les circonstances de la vie sont favorables à ce moment-là. Les gens rendaient gloire à Dieu pour sa fidélité, sa protection et sa provision envers eux. Il y avait des hymnes de louange à Dieu pour qui il est, pour sa grandeur et pour sa bienfaisance envers sa création et envers son peuple. Il y a aussi dans les psaumes l'histoire du salut, des psaumes qui rappellent l'histoire de sauvetage de Dieu envers son peuple. Et il y en a d'autres encore. Dans pratiquement tous ces psaumes, on peut voir la confiance en Dieu qui est affirmée par celui qui l'écrit. Alors, les psaumes abordent toutes les circonstances de notre vie et nous donnent de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Tellement que même dans ces moments-là, on peut parler de bonheur. Est-ce qu'on n'est pas tous en quelque part à la recherche du bonheur? Est-ce que c'est possible de trouver un endroit qui parle du bonheur? Mais dans le livre des psaumes, le premier mot du premier psaume, c'est « heureux ». Et ce matin, on va regarder ensemble cette exhortation-là qui nous dit « heureux celui qui met son plaisir en Dieu, celui qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Donc, avant de lire le psaume 1, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce rassemblement ce matin. On est réunis en toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et on te demande, Seigneur, de bien parler à notre cœur ce matin. Moi, je connais pas les circonstances de tous les gens qui sont ici, mais toi, tu nous connais, Seigneur, chacun et chacune individuellement. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous encourager, que tu puisses faire grandir notre espoir en toi. Merci, Jésus, et on veut que toi, tu parles à nos cœurs ce matin. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Donc ce matin, on veut réfléchir à cette vérité-là qui dit « Heureux celui qui prend plaisir en Dieu ». Et pour commencer, cette exhortation-là, comme on a vu, le premier mot du psaume, c'est « Heureux ». Et la première exhortation qui vient, c'est une exhortation, mais qui est heureux? C'est celui qui fait pas ça, qui fait pas ça, puis qui fait pas ça. C'est une exhortation négative. Et Don Carson, dans une série d'enseignements qui s'appelle « The God Who Is There », où il explique pas mal tous les livres de la Bible, les différents types de livres de la Bible, il parle des psaumes, puis en parlant du psaume 1 et du verset 1 en particulier, il parle de cet homme-là heureux qui ne marche pas, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et voici ce que Don Carson dit à ce propos-là. Il dit, quand il marche, cet homme-là, avec le méchant, il écoute ce que le méchant lui dit. Il prend des conseils, il marche avec lui, il écoute les conseils, puis il est comme d'accord avec cette personne-là. Puis Don Carson dit, si tu fais ça assez longtemps, tu vas te tenir devant eux. Tu vas être là où eux ils sont, et tu vas comme être comme eux. Tu vas faire ce que eux ils font. Tu deviens l'un des leurs. Tu es intéressé à savoir ce que cette personne-là veut dire. Et si tu fais ça assez longtemps, alors là tu vas t'asseoir, tu vas prendre part avec eux, et tu vas participer à leur moquerie envers les gens qui cherchent à obéir aux commandements de Dieu. Donc tu es finalement l'un des leurs. C'est comme ça qu'il parlait de cet homme-là, de cette personne-là qui se tient avec ces gens-là. Et le point qu'on veut faire ressortir ce matin dans ce passage-là, c'est que on est influencé par ce qui nous entoure. On est influencé par ce qui rentre dans nos oreilles, par ce qu'on écoute. Et il y a autour de nous, nous vivons dans un monde où il y a des gens, où il y a un système de pensée qui est créé par ce monde, qui est contre Dieu, qui est rebelle à Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu, qui cherche à vivre sa vie complètement à l'opposé de Dieu. Alors celui qui cherche conseil vers ces gens-là, celui qui écoute ces influences-là et qui suit ces influences-là, ben définitivement va devenir quelqu'un qui va vivre selon les philosophies, selon l'enseignement de ce monde qui est contre Dieu. Et ici, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas avoir des amis qui sont pas chrétiens, puis que si t'es pas chrétien, t'es pas bienvenu. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Dieu nous demande pas par ce psaume-ci de pas faire la mission qu'il nous demande de faire. Mais par contre, il est en train de dire, si tu te laisses influencer, si tu participes avec les pensées du monde, que tu écoutes les conseils des gens qui sont contre Dieu, alors tu vas devenir comme eux. Et on va voir tantôt qui est le méchant. On va en parler davantage tantôt. Mais une fois que cette exhortation-là est faite, il dit, mais, au verset 2, on va lire le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son influence et qui trouve tout son plaisir, sa passion dans la loi de l'Éternel. Et arrêtons-nous un instant pour réfléchir sur c'est quoi la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est premièrement, évidemment, les règles, les commandements que Dieu nous donne dans sa parole. C'est un guide qui nous apprend à vivre selon la volonté de Dieu, qui nous enseigne le plan de Dieu pour l'humanité. Il nous invite à en faire partie. La loi de l'Éternel, c'est aussi l'histoire de Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, il raconte son histoire. Il raconte comment il a délivré son peuple. En fait, les Israélites avaient comme devoir d'enseigner aux générations futures les commandements que Dieu leur avait donnés, mais aussi ils se devaient de raconter comment Dieu les avait délivrés de façon miraculeuse du pays d'Égypte, parce qu'il voulait que les gens sachent qui est l'Éternel et qu'est-ce qu'il avait fait pour eux. Toute la Bible est d'abord à propos de Dieu qui met son plan de sauvetage de l'humanité en marche. Il met son plan de sauvetage de l'humanité en marche. C'est l'histoire de comment Dieu ne nous abandonne pas. Et il a payé très cher pour nous secourir de la rébellion contre lui. Et en fait, les psaumes sont la loi de l'Éternel aussi. Les psaumes racontent les merveilles de Dieu, de ce Dieu qui n'abandonne pas son peuple, son enfant. Et dans les moments les plus difficiles de la vie, il raconte les triomphes de Dieu, il loue la grandeur du Dieu de la création. Voilà ce qu'est la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, la Bible. Et celui qui met son plaisir dans cette loi est heureux. Et qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Seulement Dieu peut nous satisfaire. Et premièrement, et tout d'abord, je l'ai un petit peu mentionné plus haut, mais c'est en prenant plaisir dans le fait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Je me rends compte que lui seul peut me satisfaire. Jésus est mort pour moi. Il m'a pas abandonné lorsque j'étais son ennemi. À ce moment-là, j'avais le plus besoin de lui. Il m'a sauvé de ma perdition et il m'a réconcilié avec lui. Et quand les circonstances de la vie difficiles nous frappent, je peux simplement prendre plaisir dans le fait que je suis réconcilié avec Dieu. Et prendre confiance dans le fait que alors que ma condition était la pire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être séparé de Dieu, il n'y a rien de pire que d'être en rébellion contre Dieu. À ce moment-là, Dieu m'a regardé, il a eu pitié de moi et il a envoyé son Fils mourir à la croix pour mes péchés. Et à ce moment-là où j'étais dans le pire, Dieu m'a sauvé. Alors quand que je vis quelque chose de difficile, aussi difficile que les circonstances de la vie peuvent être, comme je dis, moi, je connais pas ce que chacun d'entre nous vivons ici ce matin. Mais aussi difficile que votre vie peut être en ce moment, mais ta condition, elle n'est pas pire que celle que tu avais quand tu étais séparé de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu s'est souvenu de toi et Dieu t'a aimé. Et dans les moments difficiles de notre vie, on peut se souvenir de ça. On peut prendre confiance dans le fait que si Dieu a payé de sa vie pour que je sois appelé son enfant, en tant que père, il va pas m'abandonner. On peut voir dans sa parole que Dieu sait de quoi on a besoin. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Sa parole est remplie de bons enseignements, d'exhortations, d'encouragements à faire le bien et à l'honorer. C'est pas toujours évident. Si on prend, par exemple, l'exemple d'un célibataire qui veut se marier, qui veut trouver un mari ou une femme qui aime le Seigneur, puis qui décide de pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, il y a cette volonté-là d'honorer Dieu de cette manière-là, parce que la parole dit que la sexualité, c'est bon, mais dans le mariage, et qu'on fait juste réfléchir à comment est-ce que le monde aujourd'hui, on perçoit la sexualité comme quelque chose de bon, comme quelque chose de libre. Dans n'importe quelle circonstance, on est libre de pratiquer la sexualité dans n'importe quelle circonstance. On peut comprendre qu'un enfant de Dieu qui veut honorer Dieu arrive là, puis il est mélangé. Puis il y a des combats. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait que la sexualité seulement dans le cadre du mariage est quelque chose de merveilleux. Mais qu'autrement, elle ne peut pas apporter une réelle satisfaction. Dieu seul peut nous satisfaire dans les circonstances, exemple la maladie, dans nos difficultés financières, dans notre lutte avec le péché, dans nos difficultés de couple. Dieu est là. Et ce qu'il y a de vraiment encourageant dans ce psaume, c'est au verset 3, c'est l'image qu'on nous donne ici. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. tout ce qu'il fait lui réussit. C'est extraordinaire parce que quand on pense à un arbre qui donne son fruit en sa saison en Amérique du Nord, on le sait que quand la neige a fond puis qu'il commence à faire chaud, mais les arbres, les feuilles poussent dans les arbres et les fruits poussent et quand ils viennent à maturité, on peut les manger. Mais si on est en Palestine et qu'on est dans un climat où ce qui fait pas mal plus chaud, puis qu'il y a pas mal plus de sécheresse, puis qu'il n'y a pas un cycle de saison aussi défini qu'ici, ben les fruits naturellement vont pousser dans les arbres quand il va y avoir des temps de pluie qui vont abreuver les arbres. À moins qu'un arbre soit planté à côté d'un courant d'eau et qu'il soit enraciné dans le sol et puis qu'il peut constamment prendre son alimentation, son eau de cette source d'eau-là. Et ce que ça nous dit, c'est que peu importe la chaleur, peu importe les conditions, ben cet arbre-là va continuer à produire des fruits. Et quelle belle parole, quelle belle assurance que Dieu prend soin de nous, qu'il est là, qu'il nous fait grandir, progresser, même dans les pires moments de notre vie. Parce que le bonheur ou notre assurance ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas d'une saison où est-ce qu'on est joyeux, favorable, ou d'une saison où est-ce qu'on est malheureux ou qu'on vit quelque chose de difficile. Elle dépend de la présence de Dieu dans nos vies qui nous abreuve et qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour rester fidèle, pour lui faire confiance. C'est Dieu, c'est sa parole qui nous garde en lui. Et comment on peut se réconforter dans cette vérité-là? Qu'on est comme un arbre qui est enraciné et peu importe ce qui va arriver, on va porter du fruit. On va continuer à grandir. Mais le psaume 1 nous dit, il n'en est pas ainsi du méchant. Qui est le méchant au juste? Et quand que je lisais les psaumes ou les proverbes, à tous les endroits où on parle du méchant dans la Bible, moi je voyais le méchant comme quelqu'un de vraiment, vraiment méchant. Pour moi, le méchant, c'est comme dans un film d'action où t'as le bon qui veut battre le méchant, mais le méchant, lui, il va tout faire, il va faire tout exploser, il va tuer du monde, il va tromper les gens. Le méchant, c'est les hommes dans l'histoire qui ont fait du mal. On pense à Hitler tout de suite quand on pense à ces hommes-là. Le méchant, c'est celui qui fait des crimes, qui est passible d'emprisonnement. C'est certainement le méchant, ça. Mais est-ce que c'est seulement le méchant qu'on parle dans le psaume 1? Le méchant qui est décrit ici, c'est celui qui vit sans Dieu. Le méchant n'a pas besoin de Dieu. Il n'aime pas ce qui vient de Dieu. Il croit pas en Dieu. Il croit savoir ce qu'il y a de bon pour lui et il poursuit ses propres désirs. Les psaumes parlent du méchant comme ne résistant pas au jugement. Ils sont contre les voies de Dieu et contre le peuple de Dieu. Ils cherchent à faire du mal. Dieu se détourne des méchants et mieux vaut le peu de juste que l'abondance du méchant. On peut voir que le méchant, c'est celui qui est contre Dieu, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Naturellement, le méchant, c'est moi. C'était moi, c'était toi. Le méchant, c'est toi si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et puisque on n'est pas parfait, puisqu'on n'est pas arrivé à la perfection et qu'on n'est pas toujours constamment en train de rechercher notre plaisir en Dieu puis notre espoir en Dieu puis qu'on lutte encore avec nos désirs pécheurs, mais le méchant, c'est nous, c'est moi. Nous devons constamment chercher à prendre plaisir en Dieu, mais tant et si longtemps qu'on vit sur cette terre, c'est pas la réalité constante de nos vies. Et on a besoin de se rappeler ça. Le méchant poursuit le bonheur, comme tout le monde, selon ses propres voies. Il suit Il suit ses propres passions. Ce qui caractérise le méchant, c'est qu'il suit ses propres passions. Il cherche son propre plaisir. Il sait qu'est-ce qu'il a besoin pour être heureux. C'est comme Adam et Ève dans le jardin quand ils ont mangé le fruit et qu'ils ont dit, on n'a pas besoin de Dieu, on sait ce qui est bon pour nous. On sait comment faire pour être comme Dieu puis être heureux dans la vie. Alors, il cherche son bonheur dans l'argent, la réussite, dans sa famille, dans une équipe de sport. Cette semaine, Normand, on réfléchissait sur cette question-là, puis Normand me demande, il dit, c'est quoi qui te passionne, toi? Là, je dis, ben, en ce moment, je dois dire que je suis pas mal comme fort sur les Canadiens de Montréal. Puis, tu sais, quand on écoute les games de hockey, puis on est pas mal dedans, puis là, en plus, ils ont gagné en 4, fait qu'on est encore plus excités. Ils vont battre Boston, on est encore plus excités. Tu sais, on est dedans, là. Mais, ouais, je rêve en couleur, peut-être. Mais l'idée ici, c'est qu'on pense à des passions, puis on se demande, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui vient me chercher? Et au Québec, c'est clair que quand le Canadien va se faire éliminer, si ça arrive, ben, il y a des gens qui vont être déprimés. Il y a peut-être même des vitres qui vont se casser à Montréal. Parce que c'est ce qu'il y a d'important dans notre vie. Et le sport est un phénomène de société qui donne de l'espoir aux gens. Je me rappelle quand il y a eu l'ouragan à Nouvelle-Orléans, puis les gens, quand les Saints au football sont revenus, ils ont mis tout leur espoir là-dedans, puis c'était incroyable à voir ce phénomène-là, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Pour ceux qui sont dans les groupes maison, on fait le cours « Résoudre les conflits au quotidien », puis cette semaine, dans mon groupe, on a parlé des idoles, justement. Et j'aimais vraiment la description d'une idole faite dans le livre qui dit qu'une idole, c'est toute chose autre que Dieu sur laquelle nous appuyons pour nous apporter notre bonheur et notre sécurité. Et la colère est le signal qu'une idole est irritée. Certaines des idoles les plus courantes sont le calme, il donne d'autres idoles ici, la tranquillité, des enfants obéissants, des collègues respectueux, la sécurité financière, une bonne réputation. Et ce qu'on voit des idoles quand on poursuit nos propres voies pour avoir du bonheur, c'est qu'on va désirer quelque chose. On va exiger de cette chose-là qu'elle nous donne ce qu'on veut. Et comme cette chose-là n'est pas Dieu, bien cette chose-là va nous décevoir. Et on va porter jugement, on va s'irriter, on va avoir des conflits, on va être déçu. Parce que seulement Dieu et sa parole peut nous satisfaire. Et je vous encourage, ceux qui ont le petit cahier, de retourner à la page 19 et 20 et de faire les exercices pour réfléchir aux idoles dans votre vie, pour pouvoir les confesser à Dieu, lui demander pardon et lui dire qu'on veut lui faire confiance, que lui, il va prendre soin de nous pour répondre à nos besoins. Et si on continue en parlant du méchant dans le psaume 1, le méchant, au contraire, ressemble à la paille que le vent disperse. Pas mal moins glorieux que l'arbre qui porte ses fruits constamment en sa saison. Pas mal moins glorieux que l'image du juste. Don Carson encore parle de l'image de la paille comme étant sans racines, sans fruits, sans vie, inutile. Celui qui cherche ses propres voies et qui ne met pas son plaisir dans la loi de Dieu s'en va directement vers l'échec, vers une séparation. Il est séparé avec Dieu et c'est la mort éternelle qui l'attend. Ce matin, si tu es ici et tu entends ça, mais Dieu veut que tu te repentes des choses qui sont là. Peut-être que comme on en a parlé au début de l'œuvre de Jésus à la croix, peut-être que tu as besoin de croire que Jésus est venu et qu'il est mort pour tes péchés, pour se réconcilier avec toi, qu'il veut t'apporter ce que tu as besoin comme être humain pour être heureux, c'est-à-dire d'avoir une relation avec lui. Mais chacun d'entre nous, certainement, on a besoin de demander à Dieu de sonder notre cœur et de regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur? En quoi est-ce que je mets beaucoup de confiance? Qu'est-ce qui me passionne plus que toi? Fais diminuer ça dans ma vie. Demandons pardon à Dieu pour ça. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette espérance, une espérance grandiose qui est le comble de notre bonheur. Et c'est au verset 6. En effet, l'Éternel connaît la voie du juste. Est-ce que c'est pas encourageant que Dieu connaît notre voie? Il sait où on est. Il prend soin de nous. Il nous enseigne. Il nous console. Il nous donne de la force. Il nous donne du courage. Et ultimement, à la fin, il sait où on s'en va. Il sait qu'on va être dans sa présence pour toujours. On a cette assurance-là en Dieu, malgré les circonstances de notre vie. Le livre des psaumes, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui lisent les psaumes. Parce que quand on lit les psaumes, ça parle d'expériences de vie, puis bien souvent, des plus jeunes personnes n'ont pas vécu ces expériences de vie-là, puis on se sent pas, comme on lit ce livre-là, puis on se sent pas interpellé par le livre. Mais je pense que chacun d'entre nous ici, on a vécu des choses dans notre vie où on peut profiter des psaumes et de la présence de Dieu dans nos vies, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que même si le degré de souffrance et d'épreuve est pas toujours pareil, je suis certain que chacun d'entre nous, on ne sent pas toujours la présence de Dieu dans nos vies. Et les psaumes sont là pour nous rappeler à quel point Dieu agit dans nos circonstances et il règne, il est le Tout-Puissant. Et quand j'étais jeune chrétien, comme au début de ma vie chrétienne, on m'avait dit, tu devrais lire un psaume par jour. Et ce matin, on a lu le psaume 1 ensemble, fait que demain, vous allez pouvoir lire le psaume 2. Mais moi, je veux commencer ça parce que j'étais comme émerveillé par cette lecture-là. Et je vous encourage à faire ça. Ce matin, on va faire quelque chose de spécial. Vous allez faire la conclusion avec moi. On va prendre un temps de prière ensemble. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous tourner ensemble un groupe de 4-5 personnes. Et puis, je vais diriger un temps de prière pour qu'on puisse amener dans la prière ce qu'on a vu avec le psaume 1. Donc, je vais juste vous demander de vous tourner ensemble dans des groupes de 4 ou 5. Puis ensuite, je vais comme vous dire comment qu'on va procéder. Je veux juste vous dire que sentez-vous pas obligé de prier. C'est encourageant d'entendre les prières des autres, mais s'il y en a qui veulent juste prier dans leur cœur puis ou écouter les prières des autres, c'est bien correct. Faut être à l'aise avec les moments de silence. Mais ce matin, on veut reprendre l'enseignement, le psaume 1, et le mettre dans la prière. Et la première chose qu'on veut faire, et je vais diriger le temps de prière, je vais nous donner des phrases. Je vais vous donner des phrases à prier. Et puis vous allez voir, je vais vous diriger. Fait que à certains moments donnés, je vais devoir couper pendant la prière. Mais on va commencer en adorant Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Alors, vous pouvez commencer avec cette phrase: Dieu, je te loue parce que tu es. Et vous complétez. Donc, vous pouvez y aller et je vais intervenir pendant le temps de prière. Donc, Dieu, je te loue parce que tu es. Ensuite, en continuant dans un esprit d'adoration, maintenant on va changer la phrase par « Je te loue parce que tu as fait. » « Je te loue parce que tu as fait. » On a vu ce matin avec l'image de l'arbre planté près d'un courant d'eau. Cette parabole vise à nous assurer que Dieu prend soin de nous. Il est là, il nous fait grandir, il nous fait progresser, même dans les pires moments de notre vie, même dans notre lutte contre le péché. Alors on veut répondre à ça avec obéissance à Dieu. Donc on va dire, Dieu, je te loue que tu m'as protégé quand? Dieu, je te loue que tu m'as protégé quand? tout en continuant dans cette voie de répondre avec obéissance, on va dire maintenant, Dieu, je te loue parce que tu m'as pardonné de. Dieu, je te loue parce que tu m'as pardonné de. On a vu ce matin que la voie des méchants, qui n'est pas la voie de Dieu, mène à la ruine. Et comme on veut s'éloigner de cette voie-là et qu'on veut que notre amour pour Dieu et sa parole grandisse, ce matin on va lui demander, Jésus, fais grandir mon amour pour toi et fais diminuer mon amour de. Jésus, fais grandir mon amour pour toi et fais diminuer mon amour de. avec le verset 1 du psaume, on a vu qu'on peut être influencé par les pensées du monde et que ça rend notre attachement à Dieu et à sa parole difficile. Alors demandons, Jésus, donne-moi la paix et la force pour résister à... Le psaume termine avec le verset 6. « En effet, l'Éternel connaît la voix des justes. » On veut terminer en adoration avec cette vérité que Dieu connaît nos voies. Il sait où nous allons. Alors ensemble, à voix haute, on va dire « Nous te louons Jésus à cause de l'espérance de la vie éternelle. » Nous te louons Jésus à cause de l'espérance de la vie éternelle. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le temps qu'on a eu ensemble ce matin. On te remercie pour cette espérance, on te remercie pour le bonheur que tu nous donnes, Seigneur, de t'appartenir, de te connaître, et je te prie de faire grandir cet amour-là en nous, en toi et en ta parole. Et on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous promets, Seigneur, et vraiment, on te prie qu'on puisse s'attacher à toi. Protège-nous et montre-nous que tu nous aimes. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen.